l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
12h01 et 35 secondes, très exactement, la pendule de Présence. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les fréquences de Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct depuis les studios de Lourdes, où nous allons passer cette heure ensemble. Au cours de cette heure, dans quelques instants, nous allons nous diriger vers Vic-en-Bigorre, dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, avec Benoît Guillard qui nous amènera à la rencontre de Clément Menet, le maire de cette commune. Nous parlerons de la mort, et plus particulièrement des expériences de mort imminente. Ce sera avec le docteur Patrick Tellier, l'ancien responsable du bureau médical des sanctuaires Notre-Dame-de-Lourdes, qui a écrit un livre à ce propos. Nous parlerons également des missions étrangères avec Sœur Thérèse. Elle sera au micro de Anne Deslois dans le cadre de sa chronique solidaire. Et enfin, nous parlerons littérature avec un auteur qui a voyagé dans notre belle Occitanie. Et aujourd'hui, Catherine Albrecht nous parlera donc de Colette. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble, que je vous souhaite très agréable en notre compagnie. Je vous propose de débuter ce programme avec tout d'abord les titres des informations de ce vendredi 10 octobre 2025, des titres qui nous sont présentés par Éric Leclerc.
Maintien en prison du Lotois Sofiane Sihili, ainsi en a décidé hier un tribunal russe, parti à vélo de Lisbonne en juillet dernier pour rejoindre Vladivostok et traverser une quinzaine de pays. Il a été arrêté au motif de franchissement illégal de la frontière russe. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Sofiane Sihili avait fait appel de cette décision. L'appel a été rejeté. Exercice de sécurité civile sur la commune d'Héran en Haute-Garonne demain samedi 11 octobre. Cet exercice va mobiliser plus de 100 personnes et présente un réel enjeu pour la Haute-Garonne qui compte environ 1700 cavités dont un réseau souterrain complexe de plus de 1000 mètres de dénivelé. Les objectifs testés seront notamment la bonne coordination des différents services mobilisés, l'organisation des secours et différentes structures de commandement qui seront déployées sur le terrain, tels que le poste de commandement opérationnel. Dans le cadre de cet exercice, aucune action n'est attendue de la part de la population. Un comité de pilotage relatif à la déviation de la commune d'Adé dans les Hautes-Pyrénées s'est réuni en vue de son futur contournement. Cette déviation a pour but de délester l'actuelle RN21 en traversée d'Adé de 90% de son trafic. L'objectif est donc d'améliorer les conditions de circulation des usagers et le cadre de vie des riverains et de faciliter l'accès au massif pyrénéen et à la ville de Lourdes. Le projet va franchir en 2025 une étape importante avec le lancement d'ici la fin d'année de l'enquête public préalable à l'obtention de l'autorisation environnementale.
Retour de l'information sur Radio Présence dans 25 minutes avec le journal complet de cette journée.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
C'est l'heure, comme tous les vendredis, de la chronique verte de Benoît Guillard. Il y a quelque temps de cela, il s'est rendu dans une commune du nord du département des Hautes-Pyrénées, en l'occurrence Vic-en-Bigorre, à la rencontre de son premier magistrat, Clément Menet.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre à Vic-en-Bigorre. Vic-en-Bigorre, commune au nord de Tarbes, à une vingtaine de kilomètres. Et si je suis venu à Vic-en-Bigorre, c'est pour aller à la rencontre de monsieur le maire de Vic-en-Bigorre, monsieur Clément Menet, qui me fait l'honneur de m'accueillir. Et tout ça pour aborder un petit peu le défi de l'allongement de la vie et voir un petit peu les solutions un peu innovantes ou diverses et variées qui se mettent en place sur notre territoire. Bonjour Clément.
Bonjour Benoît.
Alors Clément, peut-être vous laissez-vous présenter. Peut-être avant, même après présentation, je ferai une petite introduction sur justement ce défi.
Eh bien écoutez, je suis Clément Menet, j'ai 42 ans. Je suis maire de Vic-en-Bigorre depuis 2014, donc déjà plus de 10 ans, presque 11 ans. Et puis, puisqu'on va en parler tout à l'heure, je suis aussi entrepreneur dans l'agroalimentaire et plus récemment dans justement une solution de maison partagée pour les seniors.
Alors voilà, Clément, maison partagée, en fait, bon, l'enjeu, ce qui nous fait aussi vous rencontrer, c'est un petit peu le défi que vit notre société actuellement, hein, et notamment la difficulté des liens qui soudaient hier nos générations, qui sont devenues faibles maintenant. Hein. Et donc, dans ce cadre-là, on constate, dans nos territoires ruraux en particulier, de la solitude, de la misère morale aussi, dans ce contexte, et affective. Et malheureusement, c'est monnaie courante. Et pourtant, notre société a un devoir de justement accueillir ces personnes âgées qui nous ont donné tant. Et c'est pour ça que je me suis arrêté avec, parce que j'ai vu que vraiment il y avait une dynamique autour de ce sujet-là. Et alors, ça va être ma première question, Clément. Qu'est-ce qui vous pousse à ça aujourd'hui, vous ?
Alors, je m'intéresse à ce sujet parce qu'il est essentiel pour localement, pour notre région, pour notre commune, mais aussi de manière un peu plus civilisationnelle sur comment on traite nos aînés, comment on traite les plus faibles, comment on traite les plus jeunes. Mais les aînés ont une particularité, c'est qu'ils deviennent de plus en plus importants numériquement au sein de la population et au sein de Vic. Chaque année, sans compter les personnes qui viennent s'installer dans la commune, il y a malheureusement plus de décès que de naissances de manière structurelle. Vic a déjà pris ce sujet à bras-le-corps bien avant moi, puisque il y a un pôle gériatrique important qui existe avec des maisons de retraite, EHPAD, mais aujourd'hui justement dans une société où la famille accompagne de plus en plus rarement les seniors. Et parce qu'il y a des jeunes seniors et des seniors plus âgés et des gens dans la vieillesse, il faut trouver d'autres formes d'accueil, d'autres solutions adaptées à chacun. Et c'est à la fois comme maire d'une part et comme entrepreneur d'autre part que j'ai réfléchi, j'ai essayé de répondre à ce sujet.
Alors justement, inévitablement ici, on voit des choses qui poussent entre guillemets depuis quelque temps. On a vu cette résidence arriver. Peut-être que vous nous la présenterez. Et puis maintenant, un projet nouveau pour accueillir de la colocation, mais pas que de la colocation, avec des services. L'idée générale, c'est quand même d'adapter le service à la situation de chacun, à la situation de chaque typologie d'autonomie aussi. Et c'est aussi un des enjeux de cette commune, je pense.
Alors oui, tout à fait. On a construit un véritable nouveau quartier, un véritable nouveau village senior, le Pigeonnier, à Vic, qui est ouvert depuis presque un an. Qui est complet, c'est 16 maisons qui accueillent soit des couples, soit des personnes seules, et une salle commune et des jardins communs dans lesquels justement tout un certain nombre d'activités sont mises en place et une vie en commun qui tisse du lien. Et je dois dire que la façon dont les habitants de ce village senior vivent ensemble et sont heureux ensemble est vraiment dépasse largement mes espérances. Je savais que la façon dont on concevait des infrastructures structure allait donner un projet beau, agréable, mais la convivialité, ça, on peut pas la décréter. Et de ce point de vue, c'est un succès. Et ça, c'est un projet communal mené à bien par la commune de Vic.
C'est un format innovant, hein, ce genre de résidence inclusive. Et puis aujourd'hui, bah, vous avez investi un peu plus, vous avancez un peu plus sur ce chemin, à la fois, comme vous l'avez dit, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que maire. Et donc là, nous sommes dans une magnifique résidence, ici, qui est... qui sent le neuf, hein, flambant neuf, et qui est prêt à accueillir des résidents. Et là, je vais vous laisser peut-être exposer justement ce projet.
Alors oui, et effectivement, ce projet de Maison Marguerite est un projet de maison partagée, donc de colocation pour les seniors, avec des prestations de services, c'est-à-dire tout inclus, avec quelqu'un, une maîtresse de maison qui vient préparer les repas, les préparer éventuellement avec eux, mais aussi s'occuper de l'entretien de la maison, du linge et de la convivialité aussi entre résidents. Donc c'est un projet beaucoup plus petit. Il y a 10 chambres dans cette maison. Mais de grands espaces communs, c'est un projet qui est en centre-ville et qui a permis aussi de réhabiliter une maison qui faisait partie du patrimoine de Vic, puisque c'était une maison bâtie à la fin du XVIIIe siècle, mais qui est aujourd'hui qui avait un format trop grand pour accueillir une famille normale, j'ai envie de dire. Donc c'est une façon aussi de revaloriser le patrimoine et d'offrir un cadre de vie, je pense, de grande qualité pour les futurs résidents.
Alors ce type de résidence, il s'adresse plus particulièrement à quel public, au-delà de l'âge, quel niveau d'autonomie, voilà, ce serait ma première question pour mieux expliquer à nos auditeurs où on est.
Alors c'est un accueil qui s'adresse à des futurs résidents qui sont autonomes, c'est-à-dire GIR5 ou GIR6, parfaitement autonomes, pour qui la vie seule dans une maison classique est peut-être un peu lourde, faire les courses tous les jours, gérer les papiers, ou tout simplement aussi cher, parce que quand on vit dans une maison familiale qui fait 100, 200 mètres carrés, qu'il faut la chauffer, etc., c'est qu'on est seul, c'est plus compliqué. Et donc c'est l'idée de pouvoir peut-être briser aussi cette solitude et partager une vie agréable, en toute sécurité et en toute indépendance aussi, puisque quand on est dans sa chambre, on est chez soi. Puis on est chez soi, en fait. C'est une maison qui est partagée et c'est un chez soi partagé.
Oui, alors je vais le décrire un petit peu pour nos auditeurs. On est dans une magnifique maison, une très grande maison avec un magnifique parc. Et effectivement, on a des communs qui sont magnifiques, qui donnent envie de se rencontrer, tout simplement. Et puis ensuite, il y a des espaces plus intime pour la nuit, hein, pour vivre sa vie. Et donc, c'est tout à fait adapté, ce type de public. C'est assez magnifique. Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, aujourd'hui, si nos auditeurs sont intéressés, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui contacter?
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Maison Marguerite de Vic-en-Bigorre, ou tout simplement composer le numéro suivant 06 79 24 38 90, 06 79 24 38 90. Ou aller sur le maisonmarguerite.com, puisque c'est une franchise, on n'est pas les seuls. Et justement, on bénéficie de toute l'expérience de ceux qui ont mis en place ce modèle d'accueil. Et il y a déjà entre 20 et 30 maisons dans toute la France.
Alors, peut-être aussi pour continuer d'écrire un petit peu ce projet, on est finalement tout près du centre-ville, hein, donc les accès sont très simples, et donc la vie sociale est tout à fait facile dans ce cadre-là, hein, inévitablement. Et actuellement, vous avez déjà des candidats ou vous êtes en quête de candidats?
Alors, sur les 10 chambres aujourd'hui, on en a 3 voire 4 qui sont pré-réservées, avec une ouverture de la maison au mois d'avril. Bien entendu, on peut même accueillir 2 chambres, peuvent même accueillir des couples, parce qu'elles sont assez grandes. Les chambres vont de 16 à 37 mètres carrés, chacune avec salle de bain et toilettes dédiées. Hein. Et puis le reste des parties communes s'étend à peu près sur 200 mètres carrés. Donc effectivement, il y a de la place, il y a du caché, et c'est à la fois entièrement rénové pour offrir un véritable confort.
Donc magnifique habitat partagé. J'ai envie de vous poser la question suivante, monsieur le maire. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous occuper des anciens? Je dois le dire, monsieur le maire de Vic-en-Bigorre, Clément, il c'est pas un vieux, hein, c'est plutôt un jeune, entre guillemets. Mais c'est important de voir aussi que nos jeunes responsables élus ont aussi le souci des anciens. Et justement, c'est un peu la question. Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce souci et à avoir vraiment exploré ces nouvelles formes d'accueil qui sont à mes yeux vraiment importantes pour l'avenir, quoi.
Alors pour ce projet de Maison Marguerite, en fait, Il s'adresse pas seulement à eux, mais il s'adresse beaucoup aux gens qui sont aujourd'hui contraints d'aller dans des EHPAD alors qu'ils devraient pas être dans des EHPAD parce qu'ils sont autonomes. Et je dois avouer que ça a été le cas. Ça a été le cas de ma grand-mère qui a pu rester chez elle jusqu'à la fin de sa vie, mais dans des conditions parfois difficiles. Et j'aurais aimé qu'une telle structure existe parce qu'elle était la pauvre bien seule. Donc ça plus le fait de d'avoir comme maire une vision particulière de comment redensifier la ville, de voir comment réhabiliter certaines maisons, et à un moment l'idée m'est venue et j'ai considéré que c'était un projet qui était plus de l'ordre de l'entrepreneuriat donc personnel et privé que de l'ordre d'une mairie, puisque c'est un projet qui est quand même de taille raisonnable.
Oui, parce que comme vous l'avez dit en introduction, c'est un enjeu fort pour cette société, pour nos territoires ruraux aussi, hein, puisqu'on sait que nos territoires, eh bien, la population vieillit malheureusement, et qu'il faut savoir l'accueillir et l'accompagner. Et justement, c'est un petit peu l'ambition que porte cette ville, hein, c'est d'accueillir le mieux possible tout le monde. Et c'est aussi le chemin que vous montrez en tant qu'entrepreneur, puisque vous inspirez un petit peu d'autres possibilités dans un territoire comme celui-là, et donc d'autres solutions pour nos personnes aînées. Une dernière petite question. Aujourd'hui, vous êtes aussi entrepreneur, hein, dans le contexte. Vous vivez et vous animez un territoire. Vous êtes jeune. Et on va dire dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans, quels sont vos souhaits principaux pour ce territoire?
Alors, je vais parler de Vic d'abord. Vic et les quelques communes autour, puisque c'est un territoire qui a sa cohérence. Je souhaite que Vic arrive à garder, voire à accentuer, améliorer un petit peu ça, le nombre de ses habitants, à continuer à attirer une population active. D'ailleurs, ça peut être par les métiers justement de service aux seniors, ça peut être de mille et une façons, de manière à ce qu'on reste au-dessus du seuil qui fait que les communes restent dynamiques. Pour le reste, je pense qu'une bonne équipe municipale peut permettre justement de bien animer, bien développer la commune, mais effectivement, quand vous avez des habitants qui diminuent en trop grand nombre, c'est beaucoup plus compliqué pour les commerces, pour les services, pour les écoles, etc. Et donc, le vœu que je fais pour ces 3, 4, 5 ans, c'est qu'on arrive à rester largement au-dessus des 5000 habitants. Et je pense qu'après, il n'est pas impossible d'espérer que justement, il y ait, après avoir peut-être un peu trop entassé les gens dans des villes ou dans des grandes agglomérations, il y ait un mouvement de contrebalancier qui vienne renflouer assez naturellement nos campagnes et les petits bourgs et les bourgs-centres de nos campagnes. Donc voilà le souhait que je forme, et qu'on puisse accueillir toute la population, les seniors mais aussi les actifs et aussi les plus jeunes d'entre nous.
Merci infiniment Clément, merci de m'avoir reçu et d'avoir reçu nos auditeurs chez vous dans cette belle entreprise que vous êtes en train de réaliser. Merci aussi pour ce mot réconfortant pour nos aînés, justement, de pouvoir avoir une ville qui a la volonté de les accueillir. Et puis à très bientôt.
Merci Benoît.
Et voilà pour cette chronique verte proposée par Benoît Guillard.
Tu verras.
Allez, restez avec nous. Juste après Claude Nougaro, nous allons parler d'expérience de mort imminente. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il très exactement? Plus de d'explications tout à l'heure.
Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras.
en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux. Tu verras, contre toi, contre tous et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, Mozart est fait pour ça. Tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Radio Présence sur le Causse 106.5.
Allez, nous partons maintenant aux confins de la vie. C'est ainsi que l'on peut parler des expériences de mort imminente, les EMI. Nous parlons de ça avec le docteur Patrick Tellier, ancien responsable du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes, qui a écrit un ouvrage à ce propos. Et c'est Nicolas Dargegène qui nous le présente.
Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter le dernier livre du docteur Patrick Tellier, « Les expériences de mort imminente pour tous » paru chez Arthège en avril 2025. Avez-vous déjà entendu parler des EMI, les expériences de mort imminente, ces moments où des personnes considérées comme mortes cliniquement pendant une certaine période et revenues à la vie, témoignent avoir vécu une expérience inoubliable qui les a comme happées vers un ailleurs ou vers un au-delà? Il y a une trentaine d'années, un film est sorti, il s'appelait « L'expérience interdite ». Il racontait l'histoire d'étudiants en médecine qui décidaient de se lancer dans des expériences périlleuses en se provoquant des arrêts cardiaques temporaires pour explorer les mystères de la mort imminente avant de se réanimer mutuellement à l'aide de défibrillateurs. C'était une fiction, mais finalement pas complètement une fiction, car les expériences de mort imminente existent réellement. Le docteur Tellier, ancien médecin du bureau des constatations médicales du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, se spécialise dans ce sujet depuis plusieurs années et il le prend très au sérieux. Depuis quelques années, il écoute et analyse différents témoins de ses retours à la vie après un moment parfois bref dans l'autre monde. Comme il l'écrit, les EMI sont un défi prophétique pour nous aujourd'hui, pouvant nous rappeler que nous sommes citoyens du ciel, qu'une autre vie nous attend. Cette vie qui nous est donnée gratuitement par un Dieu qui est tout amour, venu lui-même donner sa vie sur terre pour nous ressusciter avec lui, nous faire renaître corps et âme de sa vie divine pour un bonheur qui ne finit pas. Le livre du docteur Tellier est ponctué de récits d'EMI qu'il a pu recueillir. Tout d'abord, dans le prologue, il raconte l'histoire de l'expérience de mort imminente qu'a connue Sainte Thérèse d'Avila en 1538. Alors qu'on la croyait morte, que les sœurs avaient préparé son linceul, la grande Thérèse se relève et s'écrie « Pourquoi m'avoir rappelé ?» Et elle raconte qu'elle revient du ciel, qu'elle a vu l'enfer également. Une EMI connue et incroyable est celle de Sainte Mariam Bawardi, que nous connaissons bien dans notre région puisqu'elle a vécu à Pau et est venue plusieurs fois à Lourdes. Lorsqu'elle est jeune, elle est battue par un de ses oncles qui lui tranche la gorge et la laisse morte dans la rue. Elle se retrouve soignée et nourrie dans une grotte, par la Vierge Marie elle-même, pendant plusieurs mois, lui prédisant son avenir et lui montrant le ciel, l'enfer et le purgatoire. On peut lire aussi le récit de Marc. Il est plongé dans le coma pendant 40 jours. Il témoigne de ce qu'il a ressenti dans son coma. « J'ai senti que je commençais à m'élever, attiré par une très belle lumière vers le haut, comme un aimant. Tout est allé très doucement dans une grande joie. Il y avait de très belles musiques, comme je n'en avais jamais entendu, des chants d'oiseaux. Et à mes côtés m'accompagnaient de très belles personnes, toutes vêtues de blanc, qui avaient toutes autour de 15-16 ans. Nous sommes montés tous ensemble vers cette belle lumière qui n'était pas aveuglante et de tout le corps de ces personnes émaner de la joie, de l'amour, de la bonté. Quand on voit une personne heureuse, on peut le lire sur son visage qui rit ou sourit. Mais ici, c'était différent. De tout leur être émanait de la joie. Puis il entend une voix lui dire « L'heure n'est pas encore venue pour toi, tu n'es pas encore prêt, tu dois retourner. » Et le lendemain, Marc se réveille de son coma. Il y a aussi Aurélie, une trentaine d'années, qui se retrouve dans le coma. Elle témoigne « J'étais dans un tunnel, avec au loin, très loin, une lumière brillante, merveilleuse. J'avançais lentement, je me sentais tellement bien, cette sérénité incroyable, cette paix intérieure. » Au cours des EMI, certains ont des contacts avec des personnes de leur famille décédées. Un certain Colton raconte qu'il a rencontré des membres de sa famille morts depuis longtemps et sa petite sœur que sa mère avait perdue par fausse couche, sans même connaître son sexe, qui est venue vers lui, disant qu'elle n'avait pas de nom parce qu'on ne lui en avait pas donné. Ou encore Stanislas, à 12 ans, il est renversé par une voiture. En coma profond pendant plusieurs mois, il raconte lors de son retour à la vie avoir vu son arrière-grand-mère, morte à 96 ans, alors qu'il avait 5 ans. On lui a demandé comment il l'avait reconnue, et il dit « Elle avait à peu près le visage d'une vieille femme, mais elle était tellement resplendissante de lumière qu'elle apparaissait jeune. » Il y a aussi Clarisse, qui l'était de ses 23 ans et percutée de plein fouet par une voiture, et meurt un court instant qui lui semble une éternité. Elle a l'impression de sortir de son corps et visualise un tunnel qu'elle remonte, arrivant dans une clairière où tout est luxuriant et coloré. Elle témoigne elle-même « C'est magnifique, chatoyant. Je suis la goutte d'eau dans la rivière, je suis la rivière, je suis le tout. Un sentiment d'amour inconditionnel m'envahit. Je vois alors toute ma vie défiler en sens inverse, pendant qu'une voix intérieure me répète « As-tu aimé ? Regarde comment tu as aimé. As-tu vraiment aimé ?» Ce n'est pas tout. Dans la clairière, il y a un arbre majestueux sous lequel se tiennent des personnes que j'ai l'impression de connaître, mais dont je ne vois pas les visages, sauf une qui se tient au premier rang. Il s'agit de sa grand-mère paternelle, décédée 10 ans auparavant d'une maladie cardiaque congénitale dont Clarisse souffre aujourd'hui. Une ligne nous sépare. Je veux m'avancer pour la prendre dans mes bras, mais je comprends que si je dépasse cette frontière, je ne pourrai pas revenir en arrière. Ma grand-mère me confirme que pour le moment, ma place n'est pas auprès d'elle. Clarisse réintègre alors son corps et se rend compte qu'elle est indemne. D'autres nombreux témoignages sont relatés dans le livre du docteur Tellier. Mais ce livre offre autre chose qu'une présentation de témoignages. Ce livre nous indique comment les EMI sont bien la preuve qu'il y a une vie après la vie et que cette vie promise est bien celle que le Christ nous promet et que nous enseigne l'Église catholique. Patrick Tellier l'écrit « Les EMI confirment ce qu'enseigne la doctrine chrétienne sur la mort et ses suites. Elles ne contredisent pas, au contraire, la parole de Dieu dans les Écritures et l'enseignement traditionnel de l'Église, comme la séparation de l'âme spirituelle et immortelle et du corps mortel, l'entrée dans un autre monde, la découverte d'une vie autre avec des émotions et des sentiments intenses, généralement positifs, mais quelquefois angoissants, la possibilité du paradis et la possibilité d'un antiparadis, l'existence d'une communion des saints, l'accompagnement par les êtres spirituels, la possibilité d'une rencontre avec cet être de lumière plein d'amour absolu, la vision de sa vie entière ou partielle avec possibilité de purification nécessaire, le jugement particulier dans l'amour et la vérité par l'être de lumière qui semble tout connaître, demande des comptes en vérité mais avec tendresse, sans blâme ni reproche, mais à la lumière de l'amour et dans une perspective de pardon. La résurrection, c'est-à-dire des défunts proches bien vivants et la vie nouvelle très attirante avec un sentiment de paix et de sérénité. De plus, ce qui rend particulièrement crédibles les témoignages, ce sont les fruits de paix et d'amour qui découlent de leurs expériences. Comme pour les miraculés, à partir de cette expérience extrême de l'amour de Dieu pour eux, ils ne voient plus la vie de la même façon. Comme l'écrit Patrick Tellier, les EMI non seulement ne contredisent pas la foi, mais amènent ceux qui les vivent à découvrir l'existence de notre monde au seuil de la mort et suscitent de vivre dans l'espérance du ciel après le passage. Les EMI sont donc des signes d'espérance. Ces expériences rejoignent l'espérance chrétienne qui affirme que la vie terrestre n'est pas stoppée par la mort. Voilà pourquoi ce livre est passionnant, non seulement par les témoignages, mais par cette réflexion qui nous entraîne vers l'espérance. Charles Péguy parle de cette petite fille qu'est l'espérance. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ses deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser entraîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes sœurs ne marchent que pour la petite. Peggy a tellement bien réussi à décrire ce qu'est l'espérance. Voici donc un livre à lire et à offrir à ceux qui ont besoin d'espérance aujourd'hui. Les expériences de mort imminente pour tous par Patrick Tellier est publié chez Arthège en 2025 et se trouve dans toutes les librairies. À noter que le docteur Tellier donnera une conférence à Lourdes, Les expériences de mort imminente, une preuve de vie après la vie, jeudi 16 octobre à 20h30 au salle paroissiale Saint-Pierre.
Voilà pour cette chronique qui nous était présentée cette semaine par Nicolas Dargegène, une chronique qui, je vous le rappelle, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur le site de Radio Présence, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants pour faire un point complet sur l'actualité.
Tu apprends qu'est-ce que ça coûte. Il y a une route. Il y a même un chien qui court la tête entre les mains. Il y a une route. Tu sais, il y a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Comme une blessure envers l'os de ton visage. Y'a une route. Y'a une route. Avec des champignons qui poussent et qui font la neige et la mousse. Y'a une route qui coupe la brousse. Y'a une route emplie d'oiseaux aux yeux malades qui regardent vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Y'a une route.
C'était Gérard Manset sur Présence.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Plus d'informations sur leur site.
Très bonne journée à l'écoute des programmes de présence. Il est 12h passées de 35 minutes. Dans quelques instants, nous allons nous intéresser aux missions étrangères avec Sœur Thérèse. Elle sera au micro de Anne Deloy. Et puis, nous parlerons d'un auteur qui a écrit sur notre belle Occitanie. Il s'agit aujourd'hui de Colette. Dans l'immédiat, eh bien, excellent appétit. Si vous êtes à table, je vous propose de faire un point complet sur l'actualité de ce vendredi 10 octobre. Une actualité qui nous est présentée par Éric Leclerc.
Bonjour, maintien en prison du lotois Sofiane Sihili. Ainsi en a décidé hier un tribunal russe. Parti à vélo de Lisbonne en juillet dernier pour rejoindre Vladivostok et traverser une quinzaine de pays. Il a été arrêté au motif de franchissement illégal de la frontière russe. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Sofiane Sihili avait fait appel de cette décision. L'appel a été rejeté. Exercice de sécurité civile sur la commune d'Héran en Haute-Garonne demain, samedi 11 octobre. Cet exercice va mobiliser plus de 100 personnes et présente un réel enjeu car le département de la Haute-Garonne compte environ 1700 cavités, dont un réseau souterrain complexe de plus de 1000 mètres de dénivelé et dont le développement s'étale sur quelques 11 km² de surface. Les objectifs testés seront notamment la bonne coordination des différents services mobilisés, l'organisation des secours et des différentes structures commandement qui seront déployés sur le terrain, tels que le poste de commandement opérationnel. Dans le cadre de cet exercice, aucune action n'est attendue de la part de la population. Un comité de pilotage relatif à la déviation de la commune d'Adé dans les Hautes-Pyrénées s'est réuni en vue de son futur contournement. Cette déviation a pour but de délester l'actuel RN21 en traversée d'Adé de 90% de son trafic. L'objectif est donc d'améliorer les conditions de circulation des usagers et le cadre de vie des riverains et de faciliter l'accès au massif pyrénéen et à la ville de Lourdes. Le projet va franchir en 2025 une étape importante avec le lancement d'ici la fin de l'année de l'enquête publique préalable à l'obtention de l'autorisation environnementale. L'étude des nappes d'eau souterraines des Pyrénées est officiellement lancée. Pendant 2 semaines, un hélicoptère sonde jusqu'à 400 mètres de profondeur dans les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées. Sous l'œil expert du Bureau de recherche géologique et minière, ceci afin de révéler les secrets des couches de sédiments post-glaciaires des vallées de la Garonne, des Gestes, du Gave de Pau et de l'Ariège. Comprendre leur localisation et leur fonctionnement est crucial pour préserver les nappes phréatiques, ressources vitales aujourd'hui et pour les générations futures. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la douleur, l'hôpital Joseph Ducogne à Toulouse propose lundi 13 octobre de 9h à 17h une journée d'échange et d'ateliers autour du handicap invisible et de la douleur chronique. Intitulée « Un handicap visible, solution d'expression et de sensibilisation », cette journée sera animée par les professionnels et experts de l'établissement et associations de patients. Ateliers d'information, témoignages, médiation artistique, de nombreux rendez-vous sont programmés tout au long de cette journée. Réouverture de 2 institutions culturelles à Toulouse. Le 22 novembre, le public pourra découvrir le château d'eau sous un autre jour, après plus d'un an et demi de chantier. Pour l'occasion, l'artiste Sophie Zénon a conçu une exposition qui révèle des espaces complètement repensés. Et puis le 19 décembre, ce sera au tour du musée des Augustins de rouvrir ses portes et de révéler un nouveau visage. Parcours scénographique, nouvelle entrée avec une signature architecturale forte et offrant de meilleures conditions d'accueil aux visiteurs.
Et à 12h39, je vous propose maintenant de nous intéresser aux missions étrangères avec Sœur Thérèse qui est au micro aujourd'hui de Anne Deloy.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Solidairement Vôtre, nous allons parler d'un événement important dans la vie de l'Église catholique. Il s'agit de la Semaine missionnaire mondiale qui va commencer ce dimanche. Pour nous en parler, nous recevons Sœur Thérèse, engagée au sein des œuvres pontificales missionnaires. Bonjour Sœur Thérèse.
Bonjour Anne.
Oui, Sœur Thérèse, vous avez un petit accent bien agréable. Vous êtes originaire de l'Asie, d'un pays asiatique.
Tout à fait.
Pour commencer, alors, pouvez-vous nous expliquer simplement ce que sont que les œuvres pontificales missionnaires, qu'on appelle aussi OPM ?
Merci Anne pour cette question. Les œuvres pontificales missionnaires, ou on peut s'appeler OBM, sont un réseau mondial de soutien pour la mission de l'Église. Elles existent pour soutenir les missionnaires, aider les églises locaux dans le pays en difficulté. Elles sont comme un instrument pour les coopérations dans l'Église universelle. Donc, il y a 4 filières pour les OBM.
Alors, c'est ce qu'on appelle justement les 4 œuvres pontificales missionnaires.
Tout à fait. 4 grandes œuvres.
Lesquelles ?
Lesquelles ? La première, c'est la propagation de la foi. Cette œuvre-là, c'est pour maintenir des activités missionnaires sur tous les continents. Donc, c'est pour soutenir l'évangélisation dans tous les continents.
Et on peut dire que cette œuvre qui s'appelle la propagation de la foi a été créée sous l'impulsion de Pauline Jaricot.
Tout à fait. Une Lyonnaise.
La bienheureuse Pauline Jaricot qui a donc été béatifiée en 2022.
2022. Très bien, oui.
Une deuxième œuvre ?
Une deuxième s'appelle l'enfance missionnaire. Cette œuvre, c'est pour éveiller les enfants à la solidarité et à la mission depuis la jeune génération.
Et oui, et donc l'enfance missionnaire qui s'est appelée pendant longtemps l'œuvre de la sainte enfance.
Tout à fait. Tout
on
tout
a
fait.
Dit que la propagation de la foi initiée par Pauline Jaricot et l'enfance missionnaire, c'est la même idée que Pauline Jaricot, c'est Monseigneur de Forbin-Janson. On est dans les années 1843, donc ça ne date pas d'hier.
Tout à fait, tout à fait.
Une troisième œuvre pontificale ?
Une troisième œuvre s'appelle Saint-Pierre apôtre. Cette œuvre, c'est pour soutenir les vocations à la vie consacrée.
Voilà, donc ça peut être aussi la formation des séminaristes.
Tout à fait.
Des religieux.
Exact.
Et c'est aussi, je crois, des dames françaises, Stéphanie et Jeanne Bigard, qui sont toutes les deux originaires de Caen, la mère et la fille, des laïcs qui ont été à l'origine de ces œuvres, là de l'œuvre de Saint-Pierre Apôtre. Alors la dernière et quatrième œuvre.
La quatrième œuvre s'appelle l'Union pontificale missionnaire. Donc cette dernière œuvre, ça répond à l'urgence de la mission universelle qui forme les responsables pastoraux à l'esprit missionnaire.
D'accord. Donc voilà, on a fait le tour d'horizon des 4 œuvres. Alors allons un peu plus même dans le détail de ce que sont, d'une façon générale, les œuvres pontificales missionnaires. D'après ce que je sais, c'est un très vaste réseau à travers le monde.
Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les OBM sont présentes dans 143 pays. Chaque année, les OBM soutiennent des milliers de projets. Par exemple, construction des églises, formation des religieux ou des prêtres ou des catéchistes, soutien aux écoles. Tout cela, c'est un immense projet.
Voilà, et qui mettent en lien, disons, la générosité de tous les fidèles du monde entier.
Tout à fait. Par exemple, cette année, dans le point mission, j'ai rencontré des personnes qui viennent du pays pauvre, qui ont reçu les aides des OBM,
oui,
concrètement.
Oui, précisons à nos auditeurs, Sœur Thérèse, que vous êtes donc engagée au sein des œuvres pontificales missionnaires, ici même à Lourdes, puisque vous êtes la responsable du petit local Boulevard de la Grotte, qui accueille des pèlerins et des passants pour leur parler de la vie missionnaire de l'Église.
Tout à fait, oui.
Alors, on s'est retrouvés ce matin parce qu'on voulait parler spécialement de la Semaine Missionnaire Mondiale, donc qui est une semaine qui a lieu tous les ans, au mois d'octobre, le mois de la mission par excellence. Et la prochaine semaine missionnaire mondiale débute dimanche 12 octobre jusqu'au 19 octobre. Ça se terminera avec le dimanche mondial de la mission. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de la semaine missionnaire mondiale, quand on parle du mois de missionnaire, quand on parle du dimanche missionnaire mondial? Ça dépend de ce qu'on vit. De quoi il s'agit?
Avant de répondre à cette question, je me souviens une de mes propres histoires. Quand j'étais déjà sœur, je suis dans le diocèse, j'étais dans mon diocèse, et une fois, pendant un dimanche d'octobre, on collecte des dons pour le pape. Je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pour le pape? Et enfin, aujourd'hui, je sais, c'est pour les missions pontificale missionnaire.
En fait, pendant la semaine missionnaire mondiale et notamment le dimanche mondial missionnaire, ce sont vraiment tous les chrétiens du monde entier qui sont invités à donner leur obol, qui collectent justement pour soutenir les OPM qui soutiennent à leur tour la vie de l'Église et pour que l'Église grandisse partout dans le monde.
Exactement. Donc, c'est un rendez-vous annuel mondial fixé par le pape. Donc, il a eu lieu chaque année en octobre. Cette semaine missionnaire est une occasion, ou on peut dire un appel, pour chaque baptisé, chaque chrétien, de prier pour la mission, de s'informer, de partager, bien sûr de soutenir concrètement les missionnaires aussi, à travers la collecte du dimanche de la mission. Cette année célébrée le 19 octobre.
On y pensera fortement. Alors, y a-t-il un thème particulier pour cette semaine missionnaire mondiale 2025?
Bien sûr. Chaque année, le pape choisit ou propose un thème. Et le pape aussi partage un texte de réflexion. Par exemple, cette année, pour 2025, le thème est « Missionnaire de l'espérance parmi les peuples ». Donc, ce thème s'inscrit dans le cadre du jubilé de cette année. Une année sainte où l'Église invite à retrouver l'espérance.
Nous sommes tous des pèlerins d'espérance, comme on dit à Lourdes. Donc, la semaine missionnaire mondiale, c'est vraiment un temps fort pour que chaque baptisé puisse affirmer ou réaffirmer sa vocation missionnaire.
Oui.
Comme être témoin du Christ là où nous vivons.
Tout à fait, oui.
Concrètement, Sœur Thérèse, comment peut-on participer à cette semaine missionnaire?
Je pense que là, il y a plusieurs façons de s'impliquer. Et bien sûr, d'abord par la prière. Chaque jour, un petit temps de prier est proposé pour soutenir les missions, pour prier pour les missionnaires. Et puis, deuxièmement, par l'information. On a des témoignages, des vidéos, des dossiers sont disponibles sur le site des OPM pour découvrir la réalité missionnaire. Et puis, en troisième lieu, on peut par un geste de solidarité, lors de la messe du dimanche missionnaire mondial, une collecte est organisée dans toutes les paroisses du monde. Donc, c'est un geste de communion universelle.
Donc, chaque auditeur peut être missionnaire par la prière, par l'information, découvrir ce que vivent aussi d'autres chrétiens à travers le monde, et par un geste de solidarité. Alors, Sœur Thérèse, avant de conclure, un dernier mot pour inviter nos auditeurs à vivre cette semaine avec cœur.
Et moi, personnellement, je dirais vivre cette semaine missionnaire et avec le Christ. Parce que je pense qu'au sens propre, le grand missionnaire, l'unique missionnaire avec le grand majuscule, c'est le Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Donc, et nous, les baptisés, dans le Christ et avec le Christ, nous partageons la mission du Christ. Donc, chacun, bien sûr, chacun à sa manière. La mission n'est pas réservée à quelqu'un réservé. Donc, c'est pour tout le monde. Et dans cet esprit-là, avec cette semaine missionnaire 2025, nous vivons ensemble, avec foi et l'espérance, unis à toute l'Église dans le monde.
Merci beaucoup, Sœur Thérèse, pour votre présence, pour votre témoignage et éclairage sur la Semaine Missionnaire Mondiale. Alors, bien sûr, on invite tous nos éditeurs à se renseigner auprès de leur paroisse ou alors à consulter le site des OPM, œuvre pontificale missionnaire. Je donne l'adresse du site opm-france.org. Très bonne semaine à tous. À bientôt.
Merci Anne Deslois pour cette chronique solidaire que vous nous proposez tous les vendredis. Je vous laisse en compagnie dans quelques instants de Catherine Albrecht qui nous parlera de Colette qui a eu l'honneur de voyager dans notre belle région.
There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? Is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we've got this far. And can you feel the love tonight? I was led. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Radio Présence à Auch 89.6.
Du Pays Basque aux rivages de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les sites pyrénéens fameux. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Colette. Sidonie Gabrielle Colette, écrivaine, comédienne, journaliste, a débuté sa carrière littéraire par la série des Claudines, publiée sous le nom de son premier mari, dont elle est le prête-plume. Trompée et exploitée, elle divorce et pour survivre, devient artiste de music-hall, présentant dans des tenues légères les spectacles de danse et de pantomime. Elle est l'auteur d'une œuvre littéraire importante, plusieurs dizaines de romans, où elle exprime et revendique son statut de femme libre. En 1945, Colette est élue à l'Académie Goncourt et en devient présidente en 1949. Dans ce passage de La Vagabonde, 1910, elle évoque le souvenir des Pyrénées aperçu un matin de printemps depuis le train entre Saint-Gaudens et le Pays Basque lors d'une tournée de pantomime à travers la France. Comme le temps passe. Où sont les Pyrénées fleuries de cerisiers, la grande montagne sévère qui semblait nous suivre, étincelante d'une neige qui donne soif, sabrée d'ombres vertigineuses, fendue d'abîmes bleus et tachée de forêts de bronze. Où les vallées étroites et le gazon d'Espagne et les orchidées sauvages d'un blanc de gardénia. Et la placette basque où fumait le chocolat noir. Qu'il est déjà loin, le Gave, glacé, plein d'une grâce méchante, troublé par la fonte des neiges, transparent et laiteux comme les pierres de lune. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Colette. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
All afternoon, I'm putting my foot down and swing my thing back around and play my favorite tune. The dreamy that man and do. If you ain't gonna dance, free your mind, take a chance. What are you doing just hanging around? Shake your head, go downtown. I'm putting my foot down and swing my thing back around. Play my favorite tune.
à Pau, 96.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape a reçu ce matin les participants au jubilé de la vie consacrée qui s'est ouvert hier à Rome.